France Inter, la Terre au carré.
Cyril Dion, vous vouliez revenir sur la victoire de la semaine dernière contre les PFAS. Que peut nous apprendre cette victoire pour gagner encore ?
Effectivement, c'est un événement, enfin une victoire pour l'écologie. Le 20 février, grâce au travail d'une myriade de députés, d'activistes, de journalistes, de citoyennes et de citoyens ordinaires, l'une des lois les plus ambitieuses au monde a été votée au Parlement français pour interdire les polluants éternels. Et c'est une victoire importante. D'abord parce que ces substances sont extrêmement dangereuses pour la santé et pour les écosystèmes, mais surtout parce qu'elles nous sortent un peu de ce sentiment d'impuissance tenace qui nous tord le ventre.
Alors qu'est-ce qui s'est passé, Cyril, cette fois, et qu'est-ce qu'on peut apprendre donc de cette victoire ?
On peut dire que tout commence à bas bruit quand Todd Haynes, formidable réalisateur américain, sort son excellent film Dark Waters en 2019. Mark Ruffalo y campe un avocat qui se bat contre la machine infernale des multinationales de la chimie qui cache une pollution massive. C'est imparable, le succès critique est massif, le succès public plus mesuré, à peu près 300 000 entrées en France, mais le sujet commence à émerger. Puis il connaît un coup d'accélérateur en 2022, quand le député écologiste Nicolas Thiry s'en saisit, alerté par des scientifiques. Comme il sait que les lobbies de la chimie sont bien organisés pour se défendre, il décide avec son équipe de commencer par alerter l'opinion publique. Pour ça, il reproduit la mécanique qui avait bien fonctionné avec le glyphosate, on s'en souvient avec complément d'enquête, tester la présence de PFAS dans l'organisme de personnalité, et il commence par les députés du groupe écologiste. Or, tous et toutes sont contaminés. Comme il le raconte un reporter, il est contacté par la suite par 40 ou 50 médias en quelques jours. S'ensuit une longue campagne de terrain à partir de 2023, et pendant 7 mois, 152 personnes sont testées, 94% d'entre elles sont contaminées. Quelques personnalités comme Nagui, Mélanie Laurent et Camille Etienne renforcent l'intérêt médiatique, pendant que de son côté, l'association Génération Future multiplie les rapports qui montrent la pollution de l'eau, des sols, de l'air, partout en France, ce qui alimente des enquêtes journalistiques fouillées comme celle du Monde, qui publie dès février 2023 une carte des contaminations dans toute l'Europe. Sur les réseaux sociaux, influenceuses et influenceurs font un gros travail de vulgarisation pour alerter sur la contamination chimique, notamment dans les poêles, et vous en parlez ici dans la Terre au Carré dès mars 2023.
Absolument.
À la veille du premier vote à l'Assemblée nationale, en avril 2024, Camille Etienne et Solal Moisan postent sur YouTube un documentaire, Toxic Bodies, vu par 400 000 personnes, qui va servir de support à une vaste mobilisation sur les réseaux sociaux, en collaboration avec des scientifiques, des artistes et des journalistes. Des millions de personnes likent, partagent, taguent leurs députés. Pendant ce temps-là, la bataille au Parlement est rude, notamment en commission. Mais le groupe écologiste tient bon, limite le détricotage et construit une proposition de loi habile, équilibrée, à la fois ambitieuse et réaliste, comme le souligne François Veyrette, de Génération Future, à Reporter. Résultat, quand le premier vote a lieu, il est remporté à l'unanimité sur 186 voix exprimées. Le Rassemblement National et les LR se sont abstenus, craignant de prendre position contre un sujet de santé publique. Et le groupe Renaissance a voté contre l'avis du gouvernement, ce qui est très rare. La mobilisation a donc payé. Le Sénat vote lui aussi pour, reste le dernier vote à l'Assemblée. Les lobbies se remobilisent, mais ils ne sont pas les seuls. Quelques semaines avant le vote, début janvier 2025, Le Monde publie une enquête exceptionnelle, résultat de 3 ans de travail, notamment de Stéphane Aurel. Complément d'enquête, leur emboîte le pas. Camille Etienne relance une puissante mobilisation sur Instagram. Il est difficile de passer à côté. Et la suite, vous la connaissez, la loi est à nouveau votée à une immense majorité, malgré l'abstention du Rassemblement National, qui aura continué ses petites manigances avec les lobbies jusqu'à la fin.
Quelle leçon peut-on en tirer pour l'avenir, Cyril ?
En fait, la recette qui a marché n'est pas tellement originale. Elle a déjà fait ses preuves 1000 fois, mais maintenant, il s'agit de la systématiser. Chaque lutte a en fait besoin de s'organiser autour de 3 pôles. Un pôle dédié au lobbying d'intérêt général. Donc travailler avec des scientifiques pour produire des rapports incontestables, les traduire sous forme de propositions de loi, aller faire un travail de fond auprès des parlementaires. Un second pôle qui travaille à médiatiser ces enjeux pour que l'opinion publique s'y intéresse, les comprenne et les soutienne. Et un troisième pôle qui s'occupe de la mobilisation citoyenne dans la rue, les tribunaux et sur les réseaux sociaux. Dans l'état actuel des choses, nous aurions besoin d'identifier les victoires atteignables dans le calendrier parlementaire pour les remporter les unes après les autres. Si on voulait aller encore plus loin, on pourrait imaginer une organisation dédiée à ces luttes, avec une petite armée de professionnels dans chacun de ces pôles, qui se mettrait au service de l'intérêt général. Elle pourrait être financée par des dons individuels, comme c'est le cas pour les grandes ONG, et resterait indépendante. Si elle était couplée avec des outils démocratiques, comme on en a déjà parlé ici, comme un référendum d'initiative citoyen délibératif, par exemple. Elle pourrait aussi mettre des sujets à l'agenda politique et les faire gagner par des référendums préparés par des assemblées citoyennes tirées au sort. Tout ça n'est pas si compliqué. Ces stratégies, nous les connaissons. Il s'agit maintenant de nous organiser pour les mettre en œuvre, de sortir d'une forme de léthargie, d'attentisme, pour reprendre la main. Parce que, désolé de le redire, encore et encore, nous n'avons plus vraiment le choix.
Voilà, peut-être une armée des luttes, alors, Cyril Dion, comme vous le suggérez. Et demain, peut-être une autre victoire, qui sait, avec la 69.
Nous espérons bien.
J'espère qu'on en parlera demain à cette heure-ci, qu'on aura des bonnes nouvelles. À très bientôt, Cyril Dion.
À bientôt.